France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Trois nuances de rouge sur la carte épidémique de la France. Pour éviter une situation critique, selon les mots d'Olivier Véran, la plupart des grandes villes du pays sont désormais en zone d'alerte renforcée avec fermeture des bars et restaurants à partir de 22h et de toutes les salles de sport et gymnases. À Marseille et en Guadeloupe, les bars et restaurants vont même devoir complètement fermer leurs portes dès samedi et pendant 2 semaines. La métropole d'Aix-Marseille et l'île antillaise ont été classées zone d'alerte maximale, le dernier niveau avant les état d'urgence sanitaire. Hier soir, Santé publique France a annoncé avoir enregistré 13 000 nouvelles infections en 24 heures. 675 malades du Covid-19 sont ce matin en réanimation. C'est 24 de plus que la veille. Le projet de loi à recherche a été validé en début de nuit par les députés. Le gouvernement promet avec ce texte des moyens massifs pour les chercheurs français, 25 milliards d'euros sur 10 ans. Mais l'opposition de gauche et les syndicats de chercheurs dénoncent déjà la philosophie de cette loi et notamment sa mesure phare qui vise à distribuer des nouveaux financements principalement pour les appels à projets. L'actualité de ce jeudi matin, c'est aussi évidemment la mort de Juliette Gréco. Le président salue l'élégance et la liberté de la chanteuse. En 60 ans de carrière, on retiendra les interprétations inoubliables des textes signés Gainsbourg, Vian ou Prévert de la part de Juliette Gréco, mais aussi son triomphe à la télévision en 65 pour le feuilleton Belphégor. Juliette Gréco, femme libre, a survécu au temps qui passe. Dans les années 2000, Olivia Ruiz, Benjamin Biolay, Abdel Malik ont écrit des textes pour la chanteuse, jusqu'à Miossec en 2005. Merci était sa dernière chanson.
Merci pour la poésie, le vent, la vie. Merci pour le bois, le sel, le poivre, le miel. Merci, merci bien.
Juliette Gréco avec 93 ans, retour sur son immense carrière dans le journal de 6h30 sur France Culture dans une demi-heure.
Une seule planète, mais une multiplicité de points de vue et d'usages. Sur France Culture, Florian Delorme.
Alors que s'ouvre la 75e session annuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur fond de pandémie, nous allons nous consacrer cette semaine à la question de la gouvernance mondiale et regarder ce qu'elle peut encore et ne peut pas en matière géopolitique, économique, environnementale. Quoi sert l'Assemblée Générale des Nations Unies? Que peut l'OMC dans les conflits commerciaux? La biodiversité peut-elle encore être sauvée?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Tu es étudiant? Rejoins le jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama.
Découvre 5 romans.
Rencontre les auteurs partout en France.
Et élis ton coup de cœur.
Pour t'inscrire, envoie la critique du dernier roman que tu as lu avant le 7 octobre.
Toutes les infos sur franceculture.fr et télérama.fr.
Avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Nous retrouvons le monde vivant, comme tous les matins, avec Bruno David.
Un petit animal, tacheté et allongé, présente une longue queue épaisse et annelée. Drôle de chat. On dirait un chat croisé d'un teckel. Où auriez-vous vu cela? Eh bien, sur une tapisserie fort célèbre de la fin du XVe siècle, celle de la Dame à la licorne. Ce n'est pas un chat, mais une jeunette. L'une d'entre elles a même un collier, elle est apprivoisée. La jeunette commune, Jeunetta jeunetta, est un mammifère carnivore de la famille des vivéridés, petite famille où l'on trouve aussi les civettes et les binturons que vous pouvez venir voir à la ménagerie du Jardin des Plantes. Notre jeunette est longue de 50 à 60 cm, auquel s'en ajoute 40 pour la queue. Sa jolie robe est gris fauve, tachetée de brun foncé. Son petit museau est cerclé de noir, elle dresse ses oreilles pointues. D'origine africaine, sa répartition en Europe couvre la péninsule ibérique et la France, principalement dans le sud-ouest où elle est fréquente. Nocturne, difficilement observable, territoriale, elle est prédatrice de petits rongeurs, d'insectivores, d'amphibiens et d'oiseaux. Mais elle ne rechigne pas à manger aussi fruits, baies et gros insectes. Son territoire est marqué par de petits crotiers et de fortes marques odorantes. Hérodote la mentionne. Les Romains et les Maures domestiquent les jeunettes pour lutter contre les rongeurs ravageurs de récoltes. Lorsque les musulmans amorcent la conquête de l'Espagne par la prise de Séville en 711, ils importent la jeunette dans leur bagage. D'ailleurs, une légende raconte qu'après la défaite des Sarrasins près de Poitiers en 732, Charles Martel trouva parmi le butin de guerre nombre de fourrures d'un petit carnivore africain, notre jeunette. Cette origine est doublement validée. Primo, par l'archéologie qui atteste que le plus ancien reste de jeunette en Europe remonte au début du XIIIe siècle au Portugal. Secondo, par les analyses des génomes qui montrent que les jeunettes européennes trouvent leurs racines chez celles des pays du Maghreb et même plus précisément du nord de l'actuelle Algérie. À partir du XVe siècle, la jeunette est bien présente en France, notamment dans les marges des manuscrits, sur des tapisseries, sur des vitraux et des estampes. La jeunette est protectrice. Elle est figurée menaçant un serpent qui représente le péché. Elle est introduite dans l'héraldique chez des nobles prénommés Jeanne ou Jean, telle Jeanne de Bourbon, fille du roi Charles VII. La jeunette se trouve ainsi anoblie, en pleine période de dénigrement du chat. Pourtant, la jeunette et le chat ont en commun d'être des auxiliaires de lutte contre les rongeurs. Mais au XVe et XVIe siècle, période du succès des jeunettes, l'Église catholique voit dans le chat une créature démoniaque dont il convient de se méfier et recommande de jeter des chats dans les bûchers de la Saint-Jean. À la fin du Moyen Âge, l'animal domestique préféré est donc la jeunette, pas le chat. À la Renaissance, l'aristocratie adopte la mode italienne. Les Italiens ont un train d'avance. Leur animal domestique est à nouveau le chat, qui remplacera alors progressivement la jeunette, abandonnée sans doute en raison de sa trop forte odeur de musc. Dommage, elle était bien sympathique.
Matière grise et café noir, 6h-7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les jeudis, c'est l'actualité des musiques pop et aujourd'hui je reçois un duo. Un jeune homme, une jeune femme, Alice et Marc qui forment le duo Keys en trois lettres. Keys sort un deuxième album qui a pour titre « Nous deux ». Voilà, donc ils sont là tous les deux et donc on sera à trois à causer dans le poste ou dans votre casque si vous êtes abonné au podcast du réveil culturel.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Je pense en automatique, je sens l'ennui qui t'excite. Et si tout est en plastique, on y croit. Je m'enivre des images et tout redevient normal. Le poisson dans un bocal, c'est moi. Loin des gens, un moment, loin des détournements. Aujourd'hui, j'ai l'envie mobile. Alors on part, tout oublié. Si on s'égare, c'est qu'on s'est trouvé. Alors on part, tout oublié. Si on s'égare, c'est qu'on s'est trouvé. J'ai le miroir en exil et tout me semble facile. J'avance sur un fil et j'y crois. Loin des gens, un moment, loin des détournements. Aujourd'hui, j'ai l'envie mobile. Et tranquille, sur une île, on oubliera nos villes. Aujourd'hui, j'ai l'envie mobile. Alors on part.
C'est de l'électropop, comme on dit aujourd'hui, puisque plus personne ne veut dire variété française ou pop hexagonale. On vient d'écouter Alors on part, un extrait du deuxième album de mes deux invités, Keys. Bonjour Alice et Marc, puisque vous vous présentez aussi par vos prénoms, c'est
exactement,
ça
bonjour.
Bonjour. Keys, Kesako, ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En fait,
ça commence bien.
Ouais. Grosse déception.
Non, on aime beaucoup l'image. On est très attaché à l'image et on cherchait un nom court et efficace visuellement.
Alors, Keys, c'est avec K-I-Z.
Ouais, K-I-Z. Avec le I, en fait, qui symbolise vraiment la séparation entre deux consonnes à fort caractère.
Un duo, un tandem, peut-être un couple. La formule une fille et un garçon, ça nous rappelle les bons souvenirs des bonnes années 80 avec Ellie et Jacques Noll, Rita Mitsuko, Niagara. Mais je suppose que pour les deux jeunes trentenaires que vous êtes, ces références appartiennent à la préhistoire ou au mieux à des friandises vintage.
Ah non, moi j'étais fan d'Erita. Non, non, j'ai beaucoup écouté quand j'étais petite.
Pareil, alors le premier par contre duo que je connais pas du tout.
Ellie Jacquenot, vous connaissez pas?
Non, je connais pas.
C'est incroyable. Vous avez quel âge?
Moi j'ai 31.
À peu près voilà. Pareil.
Donc j'ai bien. J'ai vu juste des jeunes trentenaires. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Vous avez été nourri à quel genre de pop ou de musique?
Alors, pas vraiment de la pop. Moi, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises avec mes parents. Beaucoup de blues et de jazz aussi.
Quand vous dites chansons françaises avec vos parents?
Eh ben, beaucoup de Brassens, j'avoue. Beaucoup de Brassens, beaucoup de Nougaro, toutes ces belles chansons françaises qu'on a là. Après, plus tard à l'adolescence, pas mal de chansons françaises aussi. Moi, je suis très attachée à Camille et à Mathieu Chédid. C'est ce qui nous a reliés un petit peu avec Marc.
Marc, oui, d'ailleurs, c'est le premier morceau qu'on a joué ensemble.
Exactement, c'est
un Camille. Ouais.
C'est en reprenant une chanson de Camille.
Ouais. C'était à l'école de musique qu'on faisait ensemble. Il fallait faire un morceau et c'était noté. Et on avait fait Paris de Camille. Ouais.
Et c'est... avant l'école de musique, avant de rencontrer Alice, c'est quoi votre parcours, Marc?
Avant de rencontrer Alice, je sortais d'école d'ingénieur, donc j'étais très loin de la musique. Mais si c'était par rapport aux références, la question. Moi, j'étais plus très chanson à texte, mais plus actuelle comme Thomas Fersen, un peu le label Tôt ou Tard, ce genre d'artiste. Et j'ai beaucoup écouté de variétés comme Goldman, Mathieu Chédid énormément aussi. Et vu que je suis très mono-artiste, j'écoute un artiste pendant 3 ans, j'écoute que lui, après je passe à un autre. Mais donc c'est moins varié que Alice.
Comment vous vous êtes rencontrés, puisque ça fait un bon bout de temps là que vous êtes ensemble, que vous chantez ensemble. D'ailleurs, je dis duo, si ça se trouve c'est un couple, vous êtes un couple.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Mm-hmm. On s'est rencontrés il y a 10 ans dans une école de musique. Et effectivement, en fait, la première abord a été complètement musicale. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se mette par groupe pour présenter nos examens de fin d'année. En gros, il y avait des examens, etc. Et donc, du coup, nous, on s'est rattachés par cette envie de faire de la musique française à la base, texte en français. Et donc, je lui ai demandé de m'accompagner sur mon examen de chant qui était sur du Camille. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose qui matchait énormément musicalement. Et on a continué à travailler ensemble. On a fait des compos très rapidement. Et depuis, on fait de la musique.
Ensemble, oui.
Oui, c'est ça.
Ah, j'ai rien à rajouter. C'est
Si, peut-être, qu'est-ce que vous faisiez dans cette école, et l'un et l'autre?
Alors, on était en cours de chant ensemble. Mm-hmm. Ça a mieux marché sur Alice que sur moi.
c'est pas vrai.
Et moi, je faisais du piano aussi. Et toi, je sais pas si tu faisais.
Bah, en fait, c'était une école. Si, piano aussi. C'était une école où en fait, on apprenait beaucoup de choses. On apprend l'environnement socio-professionnel du musicien, mais on apprend aussi les instruments. On apprend le rythme. On apprend l'histoire de la musique.
Mais je suppose quand on s'inscrit dans une école de musique, on a déjà en tête une envie de devenir soit musicien, soit chanteur.
Ah oui, bien sûr.
Bien sûr, c'était pour ça, oui.
Ouais.
C'est une école qui est faite pour ça. Hein. Il y a beaucoup de professionnalisation. C'est l'école Atla à Pigalle, et c'est vraiment une super école.
Ouais. On a adoré.
On a vraiment adoré, ouais.
Alors, ce qui vous réunit, c'est votre envie de chanter en français.
D'écrire en français, ouais. Et de chanter en français, exactement, ouais.
Ce qui vous distingue des autres jeunes de votre génération, je dirais.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent chanter en anglais.
Et pourquoi cet amour pour la poésie française, les paroles en français?
Ben moi, ça vient de ce qu'on disait au début, de mes référents, de ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune. J'étais fasciné, admiratif de la manière dont les artistes que j'écoutais manipulaient les mots, les phrases, créaient des jeux de mots, des assonances. Et j'écoutais parfois plus le texte que la musique. Et j'essayais vraiment de comprendre et de décortiquer comment c'était fait, etc. Et donc du coup, j'ai forcément voulu faire pareil ensuite.
Alors vous vous lancez dans cette aventure, qui écrit les paroles, qui compose les musiques dans ce duo, le duo Keys ?
Eh bien, on fait vraiment tout à deux. Après, il peut y avoir des moments où on ramène quelque chose de personnel, que ce soit un texte ou une suite d'accords ou quoi que ce soit. Et puis après, on met très vite en commun. Mais de base, Keys, c'est vraiment un personnage hybride où tout est mélangé. Chacun ramène son identité pour créer une identité finalement qui nous correspond à tous les deux. Et on fait tout vraiment ensemble. C'est une particularité qu'on a envie vraiment de garder et qu'on s'oblige à faire depuis 10 ans, parce que c'est la combinaison des deux qui est intéressante.
Alors Alice, c'est plus au piano, moi ouais. Je me mets plus à la guitare. Et ensuite, pour ce qui est du texte, bah, ça c'est une feuille, un papier.
C'est une feuille, un papier, chacun classique. De son côté, ou une feuille et un papier et en train de composer en même temps.
Alors, elle est intéressante cette question. Pour le deuxième album, on peut y répondre très précisément parce qu'en fait, on s'est dit, on part vraiment de la source d'un morceau, c'est-à-dire la mélodie, la suite d'accords et un thème. Et ensuite, on développe tout ça. Mais on voulait vraiment avoir la structure, le noyau dur et le faire ensemble.
Donc on s'assoit. La musique d'abord.
Donc on s'assoit et puis on peut avoir une idée de mélodie qu'on met en commun. Et puis après, il y a un mot qui se dégage et puis on écrit. On fait séparément des choses et très vite, on les remet en commun. C'est-à-dire que si on cherche un refrain qui équivaut à 4 ou 8 phrases, on va d'abord se mettre d'accord sur le thème, ensuite se séparer, écrire pendant 2 ou 3 heures chacun de notre côté, très vite remettre en commun pour finalement faire une combinaison des deux idées.
Et tout ça sans bouger.
Et des claques, et bien souvent, j'ai pris mes clics et mes claques en courant. J'ai fait des fours et des gaffes à des moments. J'ai bu de tout et la tasse trop souvent. J'ai pris l'impact des baffes en les comptant. J'imprime et capte les traces à mes dépens. Si tu m'attaques, je me détends. Si tu me traques, je t'attends. J'attends que ça vienne lentement, que nos routes viennent se toucher. J'attends que ça vienne lentement. J'attends que ça vienne sans bouger. J'attends que ça vienne lentement, que nos routes viennent se toucher. J'attends que ça vienne lentement. J'attends que ça vienne sans bouger. Des clashs et des sermons, des coups d'un soir à l'arrache et c'était long. J'ai pris des flaques de glace et des savons. J'ai pris des tacles en plein match bidon. Y'a comme un vide et des fuites dans mes idées. J'ai connu pire mais j'attire sans attiser. Si ça m'abîme sans hésiter, je me remise sans compter. J'attends que ça vienne lentement, que nos routes viennent se toucher. J'attends que ça vienne lentement. J'attends que ça vienne sans bouger. J'attends que ça vienne lentement, que nos routes viennent se toucher. J'attends que ça vienne lentement. J'attends que ça vienne sans bouger.
J'attends que ça vienne lentement, que nos routes viennent se toucher. J'attends que ça vienne lentement, j'attends que ça vienne sans bouger. C'est le refrain de votre chanson « Sans bouger », une chanson extraite bien sûr de votre deuxième album, Keys. Si on partait de cette chanson pour savoir comment vous travaillez, le refrain est arrivé comment ? Il est arrivé en premier ?
Alors sur ce morceau-là...
Sur ce morceau, c'était un yaourt. Et puis ensuite, il y avait déjà le mot « sans bouger » dans le yaourt. On ne savait pas de quoi on allait parler, mais je me souviens. Et ensuite, tu as pris la guitare.
Mais c'était long, hein, le texte de ce refrain.
Ouais, il était long. Et finalement, le thème est arrivé assez rapidement.
Je crois qu'au moment, on disait que nos routes viennent se croiser ou un truc
ouais,
comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'était des petits détails, mais...
Ah, mais ça fait la différence.
Ça fait la différence.
C'est volontairement des textes légers.
Alors, oui. Ça dépend des morceaux. Celui-là est en effet hyper léger. Il y a des morceaux dans l'album qui sont un peu plus tristes, un peu plus profonds, parce que c'est la vie, il y a des moments légers et des moments profonds. Et donc, vu que ça parle de nous deux, ça parle de nos deux vies, donc c'est un peu à l'image voilà, de ce qu'on peut traverser.
Comment vous allez commencer à vous faire connaître? Parce que c'est à partir de chez vous et en utilisant les plateformes, Internet, que vous vous êtes fait connaître au fur et à mesure que vous avanciez dans vos expérimentations.
On a même commencé par ça. On a commencé par mettre des vidéos sur YouTube.
Des vidéos fabriquées par vos sons ?
Oui, on a...
On peut voir la progression sur YouTube en termes vidéaste. Parce que les premières vidéos sont quand même pas terribles. Et heureusement, avec le temps, ça a amélioré. Mais ouais, on a commencé dans ma cuisine, je me rappelle, il y avait un mur rouge. On trouvait ça marrant, ce mur rouge. Et donc, du coup, c'est rouge corse, d'ailleurs, je crois. Et donc, on a fait des reprises à partir de bruit un petit peu de tous les jours, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'avoir plus. Et finalement, c'est devenu un peu notre signature au fil du temps. Et on a fait un moment la sonnerie de, on a repris la sonnerie de l'iPhone, avec un bruit de micro-ondes, une tasse, etc. Et cette vidéo a pas mal marché, et c'est un peu parti de là, du coup.
Et du coup, vous n'êtes pas du tout passé par le circuit classique, c'est-à-dire chercher une maison de disques, voir si un éditeur était intéressé par ce que vous faisiez, non ?
Non, c'est vrai qu'on n'est pas passé par cette étape-là. On a tout de suite voulu que ce soit concret. Nous, enfin, on ne s'est pas posé toutes ces questions, on démarrait.
Mais en plus, ça m'a varié au début. Quand on a commencé à faire nos premières vidéos sur YouTube, il n'y avait même pas de compo à nous, ou peut-être deux, trois à peine enregistrées. Donc, on n'aurait même pas pu aller démarcher. Et finalement, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure. Quoi. On a fait des vidéos, ça a plu. Du coup, on nous a appelés. On n'a jamais trop eu à démarcher, finalement. C'était un peu une chance.
Et l'envie de vous produire sur scène, c'est arrivé avec vos premières compositions avant, ou bien une fois que vous avez réussi à faire une dizaine de chansons, donc suffisamment pour proposer un spectacle?
Bah, typiquement, c'est dans la lignée de ce que je disais, c'est on a fait une vidéo d'une compo à nous, et il y a Rémi Castillo qui était chez RTL qui nous a contactés en nous disant « j'aime beaucoup ce que vous faites, je lance un concept, je vais faire un concert ». Est-ce que vous voulez venir jouer, quoi ? Et donc, on a dit oui, bien sûr, même si on n'était pas prêt. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler la scène. C'était avec cette scène-là. Et après, de fil en aiguille, ça s'est peaufiné.
Mais vous y pensiez avant, je suppose.
Bien sûr. Nous, la scène, c'est un élément incontournable de notre métier. Enfin, tous les deux, on y attache une grande importance et on adore ça. On travaille même certains titres en pensant à la scène après. Ouais. C'est-à-dire qu'au début de la composition, on se dit, tiens, faisons ça comme ça, parce que quand on le fera sur scène ou quand on sera en concert, c'est ce qu'on veut donner. Donc,
Alors, signe des temps, le fait que vous ne soyez pas encore connu, Keys vous a permis de faire une tournée en France quand tout le monde ne pouvait pas tourner en France.
C'est le revers de la non-médaille.
Voilà, c'est le revers de la non-médaille. Pas mal trouvé. Et du coup, vous avez donné plusieurs concerts cet été en plein air, si j'ai bien compris.
Oui, alors en fait, nous, on a la chance d'avoir un tourneur qui a réussi à nous organiser une mini tournée en France. Parce qu'en fait, on est quand même un groupe qui tourne beaucoup. Sur le premier album, on a fait plus de 200 dates. Plus des pas mal de tournées à l'étranger, en Corée, en Chine, en Allemagne,
en Estonie. Le premier album, c'était en 2017, des tours.
C'est ça. Et donc pour cet album-là, ils avaient prévu aussi une belle tournée qui n'a pas pu se faire en totalité, bien évidemment, mais on a quand même gardé, grâce au travail des équipes, un noyau dur qui pouvait être réalisable et avec des partenaires qui étaient motivés pour le faire. Donc ça, c'était génial. Et donc effectivement, on a fait 23 dates, on est parti un mois et demi et on a fait pas mal de coins en France, en passant par la Bretagne jusqu'en Haute-Savoie. Donc c'était chouette.
Et c'est un public qui vous avait déjà repéré sur la toile, qui venait qui...
Alors il y a un peu de tout. Et c'était super touchant cet été de voir qu'il y avait souvent des bons groupes de personnes qui connaissaient toutes les paroles par cœur. J'ai vraiment, sur un morceau, je me rappelle d'une dame qui chantait, et moi j'avais un trou et j'essayais de lire sur sa lèvre parce que elle m'a dicté le texte. Quoi. C'était quand même dingue. Ça, c'est toujours hyper intéressant. Et surtout qu'au début, quand on a commencé à tourner et qu'on disait chanter ce refrain avec nous, il fallait expliquer les paroles, enfin leur montrer la mélodie. Et là, sans besoin d'expliquer, les gens le chantaient naturellement, donc c'est super. Mais c'est dû au fait qu'on avait fait presque 200 dates avec le premier album, et que du coup, on a construit un public comme ça via le live, en fait.
Marc, du groupe donc Keys, et vous, Marc, vous êtes venu avec votre guitare.
Oui, toujours.
Alice ne pouvait pas venir avec son piano.
Non.
Faisons un petit live dans le réveil culturel. Keys, quelle chanson ?
Voilà, donc à prendre la première au pif.
Allez.
C'est laquelle ?
C'est La Nuit. La Nuit, c'est le premier morceau de l'album Nous Deux. Je la connais, la formule, quand tu rentres tard et t'es pas funambule le long des couloirs. Je suis une particule sur une balançoire. Quand la nuit tu bascules le long des boulevards. Et je suis sous de toi,
tant pis pour moi. Au fond, j'avoue, je suis pas au bon endroit. La nuit, on court, on cherche, on se bat. Je fuis le jour, je suis pas vraiment moi.
Bravo! Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment le groupe de l'année Covid? Non, mais je dis ça, Alice, parce que vous avez profité du confinement pour vous faire connaître, pour faire des clips et d'être très très présent sur la toile. Et puis, quand on a pu sortir de ce confinement, vous étiez en tournée. Et quand je dis en tournée, c'était vraiment des salles en plein air où il y avait de tout?
Alors, il y avait de tout, mais beaucoup en plein air. Hein, beaucoup en plein air, parce que du coup, ça fait partie des conditions pour pouvoir... faire des concerts. Et donc du coup, la plupart du temps, c'était vraiment en plein air, avec une entrée, une sortie, des chaises, masque obligatoire. Voilà, donc c'était dans des respects des règles sanitaires. Mais en tout cas, ouais, on est...
Étrange période quand même.
Étrange période, très étrange.
Comment vous voyez un peu votre avenir, votre carrière dans la musique, dans la pop?
Ben, on espère sans masque, déjà, ce serait une très bonne chose pour tout le monde. On espère pouvoir continuer à faire des concerts, quoi, tout simplement, encore plus en ce moment. Mais on réalise à quel point c'est une chance de pouvoir le faire encore plus pendant cette période-là.
En indé, toujours, ou bien votre rêve, c'est quand même de rejoindre une écurie, une maison de disques?
Ben là, on est signé en ce moment, de mes parents froids avec... notre label, on est signé en ce moment.
Vous êtes signé ou en froid avec votre label? Je sais pas quoi.
Bah, ça va dépendre de la suite de l'émission, du coup. Non, ça se passe très bien. Et la preuve. Et donc, du coup, pour l'instant, on est très bien accompagné. On espère pouvoir continuer à faire ça, à faire de plus en plus de belles salles, c'est sûr. Et faire ça le plus longtemps possible, ce sera déjà énorme. Et
comment vous définissez votre musique, votre pop? C'est de l'électro-pop? C'est de la chanson française d'aujourd'hui?
Je reviens à ce que tu disais en début d'émission. Moi, je trouve que
c'est le tutoiement facile, les artistes. Non, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois que ça m'arrive cette semaine.
Ouais.
Pop, électro, oui. Variété?
Pop hexagonal, j'aime bien, en fait. C'est parce qu'en plus, l'hexagone, ça peut être joli. C'est pour la prochaine d'album. Pop hexagonal, c'est ça. Et c'est un peu... la variété, finalement, je trouve, de maintenant, c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission, c'est la variété, quoi, parce qu'il n'y a plus trop de... Pour moi, c'est de la variété, quoi.
Et cet équilibre que vous avez, qui vous rend d'ailleurs très particulier entre l'acoustique et l'électronique, c'est quelque chose que vous allez encore développer?
Oui, beaucoup. Nous, on aime la musique concrète, on aime les vrais sons. Et en même temps, on est aussi très attaché à tout ce qui est électronique. On a beaucoup travaillé, en fait, on fait les arrangements et la réalisation vraiment à deux dans notre home studio. Et du coup, toute cette recherche sonore est très intéressante et le mix entre les deux, très cool.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et aujourd'hui avec Alice et Marc du duo Keys. Ils sortent donc un deuxième album, nous deux, et ils sont en concert pour avoir les dates de leur tournée, puisqu'il vous reste encore quelques dates.
Et alors, on a fini ce week-end.
Ah, vous avez fini ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? On attend.
Voilà, on attend parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler sur la suite.
Et à retrouver, bien sûr, sur la toile, puisque vous êtes très, très, très présent. Merci d'être passé ce matin.
Merci. Avec plaisir, merci.
L'esprit d'ouverture.
Vieillir pour le meilleur sur les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
On commence avec le cardiologue Philippe Abbastado pour une exploration du cœur des vieux. On continue avec la philosophe Manon Garça qui viendra se demander si Simone de Beauvoir aurait bien vieilli. L'écrivain Régis Geoffrey viendra nous dire pourquoi il adore les seniors. Et enfin, Marion Masse viendra vous parler de l'élixir de longue vie d'Honoré de Balzac.
Les chemins de la philosophie, cette semaine à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez très nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui, ensemble, les médias de demain.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Alerte rouge en France contre le Covid-19. Renforcée au maximal, cette alerte comporte son lot de nouvelles restrictions. Les bars et les restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe vont fermer à partir de samedi. Juliette Gréco est décédée hier à l'âge de 93 ans. Dans ce journal, nous reviendrons sur la vie et la carrière de cette icône de la chanson française. Nous vous expliquerons aussi la fermeture de la raffinerie Total de Grandpuy en Seine-et-Marne dans un contexte de déclin de l'activité de raffinage. Et puis, réaction d'associations, d'ONG au nouveau pacte migratoire européen. Il sera durci. La circulation du SARS-CoV-2 augmente en France, mais on peut encore agir. Voilà ce que dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, tenait hier soir son point presse hebdomadaire. Il a classé la France en plusieurs zones et il a annoncé de nouvelles restrictions dans les grandes villes en fonction de leur situation épidémiologique, Véronique Julia.
Aix-Marseille et la Guadeloupe en rouge écarlate, c'est l'alerte maximum, avec tous les indicateurs qui clignotent. Une circulation intense du virus, même chez les plus âgés, et des réanimations remplies d'au moins 30% de patients Covid. Ici, ce n'est pas encore le reconfinement local, on fera tout pour l'éviter, insiste Olivier Véran, mais on serre la vis le temps qu'il faudra, avec fermeture totale dès samedi des bars et des restaurants, et le télétravail dès que c'est possible. Un cran en dessous, en rouge, c'est l'alerte renforcée. Pas encore de grosses tensions en réanimation, mais un taux d'incidence supérieur à 150, qui n'épargne plus les personnes âgées. Sont concernées Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Paris et sa petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. Ici, dès samedi, les grands rassemblements seront limités à 1000 personnes. Les fêtes locales et étudiantes seront interdites. Les rassemblements aussi de plus de 10 personnes. Dès lundi, les bars devront fermer plus tôt également, avant 22h en tout cas. Enfin, en rouge clair, en rose, en fait, c'est l'alerte simple. Un taux d'incidence préoccupant, mais pas encore inquiétant chez les personnes âgées et sans impact en réanimation. Le préfet décide seul de ce qu'il faut faire, l'œil rivé sur l'évolution des chiffres. 4 villes peuvent basculer et sortir bientôt de ce rouge clair, Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand.
Face à ces mesures, certains professionnels s'insurgent déjà. C'est le cas des responsables de salles de sport qui doivent fermer dans toutes les grandes villes du pays. C'est le cas aussi des restaurateurs à Marseille. Entre colère et peur des conséquences économiques, ils sont soutenus par les élus qui ont le sentiment d'être injustement punis. Idem en Guadeloupe, où le président de région estime que l'État abandonne l'outre-mer. La jolie môme de Saint-Germain-des-Prés est partie. Nous avons appris hier le décès de Juliette Gréco dans sa maison de Ramatuel dans le Var, entourée des siens. Juliette Gréco avait 93 ans. Diane Berger, elle aura illuminé la chanson française pendant plus de 60 ans.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qu'est ma jolie môme.
Comment oublier cette allure, cette chevelure noire corbeau et cette voix unique? Juliette Gréco, c'était une femme qui aimait rire, danser, vivre libre. Et cela, depuis son enfance, elle le raconte dans l'émission À Voix Nue sur France Culture en 2001.
J'aimais marcher nu pieds. J'aime toujours. Et j'ai toujours marché nu pieds. Je suis une fugueuse, je suis une marcheuse, je suis une curieuse. Je volais les chevaux, je partais avec le cheval accru. On me faisait chercher par les gendarmes. Non, j'étais pas commode, mais j'étais pas désagréable pour autant.
Pendant l'occupation, sa mère et sa sœur sont déportées. La jeune Juliette se retrouve seule dans Paris. Elle n'a pas 20 ans. Elle vit alors dans une petite pension de famille où on lui propose de chanter pour animer les soirées.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Très vite, Juliette Gréco fascine tout Saint-Germain-des-Prés. Elle côtoie Miles Davis, Jean-Paul Sartre. Boris Vian devient son agent artistique. Elle chante pour Jacques Brel, Léo Ferré et même un petit nouveau, Serge Gainsbourg.
Nous aimions le temps d'une chanson.
Elle remplit les salles partout où elle passe. Elle joue en Italie, aux États-Unis, au Brésil. Elle fait une trentaine de tournées au Japon. Et quand les années 2000 arrivent, elle continue les concerts intacte dans ses grandes robes noires jusqu'à un premier AVC en 2016. Elle se retire alors progressivement de la scène, mais elle reste dans les mémoires une icône de la chanson française et une figure de la femme libre. Si vous avez peur,
et nous reviendrons sur la femme libre qu'était Juliette Gréco dès le journal de 7h avec Catherine Dutu tout à l'heure sur France Culture. Autre disparition hier, celle du chef Pierre Troisgros. Il était devenu célèbre avec son frère Jean pour avoir révolutionné la cuisine et fait de l'hôtel-restaurant familial de Roanne dans la Loire un monument de la bonne chère à la française. Pierre Troisgros avait 92 ans. Les syndicats de magistrats appellent à manifester ce midi à 13h devant chaque juridiction du pays. Un rassemblement contre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature accusent le garde des Sceaux de vouloir affaiblir l'autorité judiciaire. Et ils ont plusieurs exemples, Marc Potvin.
Il y a d'abord ce discours d'Éric Dupond-Moretti en début de semaine où il a expliqué qu'il règne une culture de l'entre-soi à l'École nationale de la magistrature. Pour Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, ce sont
des propos à la Trump. On surfe sur le fait que les magistrats paraissent loin des réalités, etc. pour pouvoir parler de totalement autre chose que du vrai problème, un problème de conflit d'intérêts.
Katia Dubreuil fait référence à une enquête administrative lancée la semaine dernière par le garde des Sceaux. Elle vise des magistrats du parquet national financier. Ils ont cherché à savoir qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat qu'ils étaient sur écoute dans une affaire de corruption. Pour ça, ils ont épluché les relevés téléphoniques détaillés de ténor du barreau, dont Éric Dupond-Moretti. Le ministre est donc à la fois juge et parti, assure Cécile Mamelin, trésorière de l'Union syndicale des magistrats.
C'est lui qui saisit non seulement l'inspection générale de la justice à l'encontre de nos collègues, c'est lui qui va en recevoir les conclusions, qui va décider de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, et c'est lui au final qui décidera, si le CSM le propose, de la sanction.
Cette situation, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature l'ont dénoncé la semaine dernière dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils attendent toujours une réponse.
Après la raffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône, reconvertie dans les biocarburants, celle de Grandpuits en Seine-et-Marne devrait être mise à l'arrêt. Le groupe Total a prévu de l'annoncer aujourd'hui à ses syndicats. Le projet s'appelle Galaxy et l'idée est de transformer le site en plateforme de bioplastique, Anne Lorchouin.
Les salariés s'y attendaient depuis quelques mois déjà, certains même l'espéraient, car depuis plusieurs années, l'activité de raffinage s'opérait dans des conditions de sécurité pas forcément optimales. Début 2019, le pipeline alimentant la raffinerie depuis Le Havre avait rompu, provoquant une fuite. Un oléoduc vieillissant dont la remise aux normes coûterait beaucoup d'argent, trop sans doute, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la direction aurait décidé de reconvertir le site. Selon diverses projections, dont celle de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, le raffinage de pétrole est une activité qui devrait s'éteindre à horizon 2040, soit encore 20 ans d'utilité, estime la CGT du groupe, 20 ans pendant lesquels Total va importer 100% de pétrole raffiné pour approvisionner les voitures qui continuent de rouler, alors que, toujours selon le syndicat, on aurait pu raffiner encore quelques années en circuit court, puisque la raffinerie de Grandpuits distribue son carburant à toute l'Île-de-France. Ce virage du raffinage à la production de combustibles issus de biomatériaux a déjà été opéré sur le site Total de la Med, dans les Bouches-du-Rhône, avec une rentabilité plus élevée, mais un coût social important, sans compter une dépendance énergétique accrue, car pour l'instant, la majorité des matières premières raffinées à la Med viennent d'ailleurs qu'en France, huile de palme d'Indonésie, tournesol de Russie ou colza de Chine. Qu'en sera-t-il pour Grandpuits ? On en saura plus dans la journée.
Anne Lorchouin qui suit donc ce dossier pour France Culture. Plus de 150 arrestations en Biélorussie à Minsk hier. La police biélorusse a dispersé des manifestants au moment de la prestation de serment du président biélorusse Alexandre Loukachenko. À peine présenté et déjà sous les feux des critiques, le pacte sur l'asile et la migration dévoilé hier par la Commission européenne prévoit d'accélérer les retours dans les pays d'origine pour les migrants et de renforcer les contrôles aux frontières extérieures. 5 ans après la crise migratoire
migratoire de 2015, Bruxelles tire les leçons de l'immobilisme de l'Union, mais les acteurs humanitaires ne sont pas convaincus, Marie-Pierre Véraud.
Le sentiment que rien ne change du côté de la solidarité, mais que les plus durs, les États les plus hostiles aux réfugiés l'ont emporté. C'est l'analyse que font les acteurs humanitaires de la migration à la lecture du pacte présenté à Bruxelles. La Commission reconnaît en effet aux États le droit de ne pas accueillir de réfugiés. En échange, ils devront activement participer au renvoi des indésirables dans leur pays ou au renforcement des frontières extérieures de l'Union. Car c'est bien sur cette fermeture qu'est mis l'accent. La Commission entend aussi accélérer le trio frontières, les procédures d'examen des demandes d'asile, ce qui inquiète Yon Cerezo d'Oxfam.
Au lieu d'avoir 15 jours, on a 5 jours maintenant pour que les autorités locales décident quel sera le chemin que chaque personne qui a demandé l'asile suivra en 5 jours. Dans la réalité, c'est impraticable. Les personnes ont besoin d'un soutien médical, ont besoin d'un soutien juridique, ils n'auront pas vu les ressources disponibles, et encore moins en 5 jours. On va voir une diminution de la protection internationale et un non-respect des valeurs que l'Union européenne devrait représenter.
Ce pacte n'empêchera pas de nouveaux morias ni de nouveaux drames, ajoute de son côté Caritas. Un motif de satisfaction toutefois pour les ONG qui affrètent des bateaux de secours en mer. La Commission préconise de les mettre à l'abri de toute poursuite judiciaire. C'est bien le moins, soupire l'une d'elles. Le droit de la mer impose de sauver. C'est de ne pas le faire qui devrait être criminalisé. Les acteurs humanitaires vont maintenant suivre les débats dans les États et redoutent qu'ils ne le durcissent, ce texte, car la Commission propose, mais ce sont bien eux qui disposent.
Nous ferons un tour d'Europe des réactions dans la revue de presse internationale de Camille Manière à 7h35 tout à l'heure. Les passages pluvieux vont se succéder ce jeudi sur toute la France métropolitaine, comptez 13 à 20 degrés ce matin du nord au sud. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, à l'initiative du directeur de Charlie Hebdo, RIS, près d'une centaine de médias français ont publié un appel à défendre la liberté d'expression.
Oui Clara, et parmi ces médias, certains sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations terroristes internationales. En plein procès des attentats de janvier 2015, l'opération a du sens. D'autant que tous les Kouachi ou Koulibaly n'ont pas été neutralisés et que les accusés présents à la cour d'assises spéciale de Paris n'ont pas un profil clairement assignable à la complicité directe d'entreprises terroristes. Le site d'information Les Jours suit le procès et s'est attardé sur cet aspect où réside l'enjeu judiciaire. Aucun ne se revendique, aucun des accusés ne se revendique du djihadisme ni même d'un islam radical, écrit Thierry Lévesque. Parmi ceux qui se gondolaient devant les bêtises blasphématoires de Charb, il y avait par exemple un personnage qu'il aurait pu dessiner, Michel Catineau, ancien cafetier belge bedonnant, dégarni et diabétique de 68 ans. Cet accusé résume les ombres du dossier. Détenu depuis 5 ans, il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, tout comme les autres accusés. Les faits qui lui sont reprochés sont plutôt minces, deux voyages de Belgique en France, dont l'un présumé avec un sac d'armes dont il assure avoir ignoré le contenu. Il n'aurait croisé Koulibaly qu'une seule fois à l'occasion d'une sombre histoire de carambouille sur une voiture et n'a jamais vu les Kouachi. La circonstance aggravante terroriste semble douteuse et la question se pose pour l'ensemble du box des accusés. L'accusation implique qu'ils étaient au courant du fait que les assassins agissaient au nom d'organisations djihadistes. La défense a souligné que si les épouses des frères Kouachi et leur entourage familial avaient été tenus dans l'ignorance de leur projet, comment les tueurs auraient-ils pu en confier le secret à des relations plus lointaines auxquelles on ne pouvait guère faire confiance? C'est à partir du mois prochain que la cour va débattre des éléments matériels, empreintes ADN de certains accusés retrouvés sur les armes, téléphonie qui montrerait leur travail commun, déposition. En attendant, c'est le douloureux défilé des survivants, des témoins ou des proches des victimes où réside peut-être le sens profond de ce procès. Dans l'admirable journal de Yannick Enel publié par Charlie Hebdo, l'écrivain évoque la catharsis déclenchée jour après jour par cette parole et d'abord la nécessité intime d'affronter cette contre-intimité qu'implique la parole à la barre. Est-ce l'adrénaline ambiguë qui anime la justice, cet art public de la vérité? La parole, telle qu'elle transfigure celui ou celle qui en fait l'expérience à la barre, métamorphose les victimes en quelqu'un d'autre pour sortir de ce piège, comme dit Riss, qu'est la victimisation. Car, ajoute Yannick Hennel, le crime dont ils ont été l'objet les cantonne dans le monde du crime. Une victime ne se définit que par rapport à ce qu'elle subit. En sortir, c'est s'en libérer. Ça implique le plongeon, ce plongeon dans la parole devant tous. Dans la dernière édition de l'Hebdo, Yann Diener associe cette forme de rédemption paradoxale à la catharsis, le terme par lequel Aristote désignait la purge des passions chez le spectateur de tragédie, et que Freud avait utilisé comme méthode avant de passer à celle des associations libres sur le divan. Au tribunal de Paris, la salle d'audience est devenue comme un très grand divan, ne serait-ce que par la qualité du silence qui entoure les témoignages. Il rappelle que la psychanalyse a toujours eu sa place dans Charlie, depuis que Cavana avait demandé à Roger Gentis de tenir une chronique qui s'appelait « Chez les fous » pour faire craqueler les éléments de langage que se donnent les sociétés et les familles. Au 14e jour du procès, Yannick Hennel distinguait deux régimes de vérité qui s'y seront manifestés, alors qu'il est destiné par principe à la manifestation de la vérité. Sa conception juridique, qui vient du droit romain, la veritas, relevant de l'élucidation des faits, est ce que les Grecs nommaient l'aletheia, c'est-à-dire le dévoilement, la révélation comme parole de vérité. Cet événement de la vérité, son surgissement à travers la parole, coïncide-t-il avec la vérité comme procédure de vérification? C'est la nature d'un tel procès que de nous convier à cette double expérience, écrit-il. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire, encore une affaire de vieux.
Oui, la question générationnelle en tout cas est centrale pour comprendre une partie de ce qui se joue en ce moment en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs ou presque de l'élection du 31 octobre prochain, qu'ils soient candidats ou qu'ils n'aient pas obtenu le droit de se présenter d'ailleurs, sont des politiques, des hommes exclusivement, que l'on retrouve depuis maintenant 20 ans au moins pour le plus jeune d'entre eux, Guillaume Soro. En 20 ans, comment la société ivoirienne a-t-elle ou pas changé pour espérer que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, puisqu'à l'approche du scrutin pour lequel le président en exercice Alassane Ouattara sollicite un troisième mandat, quand la Constitution n'en autorisait que deux, on évoque un réveil des violences telles que le pays en avait connu en 2010. Bonjour Richard Banegas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au CERI, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Pour dire d'abord un mot des acteurs, le Conseil constitutionnel ivoirien n'a retenu que trois candidatures en plus de celle du président sortant Alassane Ouattara. Bon, son principal adversaire, Henri Conan Bédié, 86 ans, qu'est-ce qui lui a donné le droit d'être intronisé candidat?
Bon, écoutez, la question des candidatures et de leur validation ou pas au Conseil constitutionnel mériterait un examen très approfondi sur savoir quelles sont véritablement les conditions juridiques qui ont présidé à ce choix. Mais effectivement, sur les 44 candidats au départ qui s'étaient présentés, seuls 4 ont été retenus. Et évidemment, on voit, tout le monde a vu là-dedans une manœuvre politicienne sans doute. Henri Conan Bédié, 86 ans, ancien président, déposé en 1999 par un coup d'État qui rêve de revanche, Pascal Affine Guessant, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, qui dirige le FPI, le Front Populaire Ivoirien, mais qui ne bénéficie pas de la loyauté, disons, des militants du FPI qui est divisé, et Kwadwo Konan Bertin, Kakabé, d'une nouvelle génération d'une certaine façon, puisqu'il représentait la jeunesse du PDCI à l'époque, qui est un dissident du RHDP, du parti d'Henri Conan Bédié, qui s'était déjà présenté lors de l'élection précédente, qu'il n'avait fait que 3%, mais c'est effectivement, vous pouvez vous évoquer la question générationnelle, un contraste absolument stupéfiant, hein, entre effectivement la l'âge des candidats et surtout le souhait d'Alassane Ouattara ou la volonté d'Alassane Ouattara de se représenter à 78 ans face à une société qui, comme vous l'avez dit, en 20 ans a profondément changé, a vu émerger de nouvelles générations qui sont lassées, comme l'écrivait mon ami Yacouba Konaté, de faire banquette, mais qui visiblement n'a pas la place encore de s'épanouir sur la scène politique.
Alassane Ouattara, il s'était d'abord engagé à laisser la place à la jeune génération avant que son dauphin et son premier ministre ne meurent cet été. Finalement, il a trouvé personne.
C'est ce qu'il prétend. Hein. Mmh. En tout cas, la question de la succession et de la possibilité de faire émerger de nouvelles têtes au sein de son propre parti est une question lancinante hein, depuis déjà très très longtemps. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement,
il y a des jeunes dans son parti.
Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Il y a de nombreux cadres. Il y a beaucoup de tensions aussi au sein de ce parti-là et sans doute quelques ambitions qui ont été réfrénées à un certain moment. Bon, là, la disparition brutale du Premier ministre, donc Koulibaly, semble avoir convaincu Alassane Ouattara de se représenter, plongeant le pays aujourd'hui dans une incertitude absolue, car cette question du troisième mandat, qui est inconstitutionnel, n'est pas propre à la seule Côte d'Ivoire. Vous le savez sans doute, elle a agité de nombreux pays dans la sous-région. Le Burkina Faso, en premier lieu, en 2014, qui a vu la chute de Blaise Compaoré, qui voulait lui aussi se maintenir au pouvoir. Actuellement aussi la Guinée voisine. Donc c'est une problématique transversale et qui mobilise énormément de gens sur tout le continent et les jeunes en particulier.
Le Conseil constitutionnel lui dit que la nouvelle constitution ivoirienne de 2016 a remis un peu à zéro le compteur des mandats en quelque sorte et que voilà pourquoi il aurait accepté la candidature d'Alassane Ouattara. Alors on reproche à Ouattara de ne pas avoir trouvé de cadet pour lui succéder, pour prendre le flambeau. Les opposants non plus en fait, parce que comment est-ce qu'on peut expliquer que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par exemple, n'ait trouvé personne pour succéder à Henri Conan Bédié, qui a 86 ans.
Oui, c'est
dans l'opposition non plus, il n'y a pas de renouvellement.
Oui, c'est absolument, effectivement, stupéfiant, vu de l'extérieur, comme ça, de voir se reproduire à distance des rivalités enquistées, j'allais dire, dans l'histoire ivoirienne entre Ouattara, Bédié et Laurent Gbagbo, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'opposition actuelle est une espèce d'alliance contre nature entre l'ancien parti au pouvoir, le PDCI d'Henri Conan Bédié, et le FPI, tendance Gbagbo, hein, puisqu'il est, il est divisé, qui se sont rencontrés au mois de juillet et qui ont décidé de faire alliance commune contre Ouattara, un petit peu comme dans les années 90 où c'était déjà le tout sauf Ouattara. Donc on est dans cette configuration-là qui semble effectivement reproduire de vieilles rivalités et surtout, manifester la forte présence des partis politiques en Côte d'Ivoire, cette tripartition partisane du pays qui continue de s'imposer et qui malheureusement, je dirais, pour les nouvelles générations, ne permet pas l'éclosion. Je me souviens, en 2010 en particulier, c'était frappant parce que pendant toutes ces années de guerre, toutes ces années de crise, la Côte d'Ivoire a vu émerger hein, de nouvelles têtes, des jeunes qui se levaient en homme, comme je l'ai écrit dans un article, et qui étaient déterminés à faire, à faire prévaloir leur vision du monde. Alors ils s'étaient émancipés d'une certaine façon, en partie par la force des armes, par la force aussi de la prise de parole dans l'espace public. Je pense ici aux jeunes patriotes, aux orateurs patriotiques qui soutiennent Laurent Gbagbo. Et au sortir de la guerre, lors des législatives en particulier, on avait pensé que, enfin, une nouvelle génération allait éclore. Mais leurs candidatures ont été bloquées et les partis ont repris la main et ont continué cette espèce de corocratie, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est le coro en malinqué, c'est le vieux. Hein, donc cette force-là des relations de seniorité continue malheureusement de prévaloir dans le pays.
Tout comme le Front Populaire Ivoirien qui n'a pas réussi à se reconstruire sans Laurent Gbagbo, lequel est opposant à distance, toujours en exil à Bruxelles. Guillaume Soro, qui lui est en exil en Europe, en Espagne, en France, on le connaît depuis la crise de 2002, c'était le leader étudiant de l'époque, mais forcément il a pris 20 ans. C'est le plus jeune aujourd'hui. Alors s'il n'y a pas de jeunes têtes d'affiche dans la classe politique ivoirienne aujourd'hui, que pèsent les jeunes en revanche dans l'électorat, dans un pays dont 3 habitants sur 4 ont moins de 35 ans? Est-ce que ce sont les électeurs qui peuvent faire changer les choses?
Oui, potentiellement, j'allais dire. Hein. Potentiellement, si une élection se tenait dans les conditions de transparence et de régularité, mais il n'est pas évident que ce soit le cas. Alors, ces jeunes-là, ils ont pu faire la différence, notamment sous Laurent Gbagbo, en prenant la rue. Hein. Et ça a été une des caractéristiques, justement, de ce régime Gbagbo, de résister, aux pressions, notamment extérieures, en utilisant la rue et la mobilisation des jeunes. Est-ce que ce sera le cas encore cette fois? Est-ce que
ils peuvent être galvanisés par ce qui s'est passé au Mali, par exemple, le soulèvement populaire qui a finalement conduit à un coup d'État.
Oui, et puis par leur histoire, hein, où la rue a aussi décidé de certains moments de bascule dans le pays. Je dirais qu'il y a des tentatives pour cela. Il y a aussi des mouvements de la société civile, de nouvelles générations qui essaient de faire entendre une autre voix dans le pays que celle des anciens combattants, je dirais, et de l'arrière-garde. Mais on voit la difficulté qu'ils ont à s'exprimer et même y compris à manifester, car de nouvelles dispositions légales ont été prises pendant l'été. Le Covid en Côte d'Ivoire, comme sous d'autres cieux à Bondo, hein, les manifestations ont été interdites. De nombreux militants, jeunes militants de la société civile ont été arrêtés ces dernières semaines. Donc il y a évidemment une difficulté aussi pour cette jeunesse qui ne souhaite plus en quelque sorte reproduire ces vieux schémas, une difficulté donc à s'exprimer tout simplement et à manifester.
Et les forces de sécurité ivoiriennes, jusqu'où elles pourront ou voudront soutenir Alassane Ouattara en cas de soulèvement, en cas d'émeute, parce qu'on craint des violences pour l'élection du 31 octobre?
Alors c'est la grande question, effectivement. D'un côté, la capacité que l'opposition aura de mettre, disons, la population dans la rue, les jeunes en particulier. Et là, je dois rajouter quand même une note de bas de page que, effectivement, l'histoire violente du pays pousse peut-être quand même les gens à la prudence. Hein. À cet égard, je ne pense pas que beaucoup d'Ivoiriens aient envie de rééditer les violences de 2010. Mais du côté des forces de sécurité, la situation est extrêmement complexe, car l'armée actuelle est en vérité le produit aussi de la rébellion et est traversée également par les mêmes clivages générationnels entre vieux pères et bons petits. Et on a vu que ce modèle de gestion, par la corocratie au sein même de l'armée, a pu avoir ses limites lors des mutineries de 2007 et 2018. Et on ne sait pas ce qu'il en sera aujourd'hui.
Voilà, donc il y a aussi la question générationnelle qui traverse les forces de sécurité ivoiriennes, évidemment. Et pour conclure, vous avez évoqué ces violences politico-ethniques que l'on craint. C'est par exemple Yaya Diomandé, l'écrivain, qui a dit très récemment: en 2010, on a eu une guerre entre deux armées, les loyalistes et les rebelles, mais cette année, je crains une guerre intercommunautaire. Vous dites qu'il y a quand même un peu de prudence chez les Ivoiriens, mais ces tensions politico-ethniques, on parlait dans les années 60 et 70 des halogènes, ceux qui arrivaient de l'extérieur pour s'installer en Côte d'Ivoire, le temps a fait son œuvre là aussi ou pas?
Oui, bien sûr, mais la problématique de l'ivoirité qui avait été au cœur de la guerre et de la crise de 1999 et de la guerre qui a suivi demeure pendante là derrière, et il faut quand même se souvenir que c'est Henri Condant-Bédier qui est aujourd'hui à la tête de l'opposition et qui appelle à désobéissance civile et qui est...
C'est la première fois qu'il dit ça, désobéissance civile.
Oui, c'est la première fois et c'est quelque chose d'assez important, je crois, à noter dans l'évolution actuelle, d'autant que les autres candidats, y compris Affine Guessant, semblent rejoindre, disons, cette option qui avait été lancé par Guillaume Soro et qui avait appelé à l'union de l'opposition. Donc c'est un mouvement qui est quand même pas du tout négligeable en termes, disons, de positionnement politique, surtout de la part d'un parti, le PDCI, qui est extrêmement légitimiste et qui n'a guère l'habitude de jeter ses militants dans la rue, à la différence du FPI de Laurent Gbagbo.
On verra donc si les Ivoiriens jouent la prudence, comme vous le dites, Richard Banegas, lors de cette élection présidentielle du 31 octobre. Je vous remercie et puis je mentionne que vous allez bientôt faire paraître un livre aux presses universitaires d'Oxford sur la crise en Côte d'Ivoire, abordé sous l'angle des papiers et de la citoyenneté qui était au cœur du conflit. Nous mettrons les références sur le site quand il sera sorti, donc dans une semaine ou deux, je crois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Une seule planète, mais une multiplicité de points de vue et d'usages. Sur France Culture, Florian Delorme.
Alors que s'ouvre la 75e session annuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur fond de pandémie, nous allons nous consacrer cette semaine à la question de la gouvernance mondiale et regarder ce qu'elle peut encore et ne peut pas en matière géopolitique, économique, environnementale. Quoi sert l'Assemblée Générale des Nations Unies? Que peut l'OMC dans les conflits commerciaux? La biodiversité peut-elle encore être sauvée?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente L'âge d'or de la peinture danoise au Petit Palais. Une exposition dédiée aux plus belles heures de la peinture danoise de 1801 à 1864. Peinture précise et délicate, 200 œuvres des plus grands artistes offrent une plongée dans le Danemark du 19e siècle. L'âge d'or de la peinture danoise jusqu'au 3 janvier au Petit Palais à Paris. Un partenariat France Culture et Le Parisien.
6h57, vous êtes sur France Culture, bienvenue et bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre humeur du jour, Guillaume. Aujourd'hui, le Saint-Germain-des-Prés de Juliette Gréco fait partie des lointains.
Mais oui, mais comment définir ce Saint-Germain-des-Prés que Juliette Gréco symbolise, y compris pour ceux qui ignorent qui étaient Juliette Gréco et Saint-Germain-des-Prés. S'il fallait définir la singularité de ce lieu dans l'imaginaire français, il faudrait évoquer non seulement le quartier où les intellectuels étaient à la mode, mais le quartier où les intellectuels faisaient la mode. Voilà ce qui est particulier dans le mythe Gréco, entre nous d'ailleurs, Gréco, quel nom génial, l'association d'une femme où se confond la beauté et le tragique, peut-être aussi la beauté du tragique, famille pourchassée, torturée, déportée par les nazis, enfant rescapé, doté comme seul patrimoine sur le pavé parisien d'un ticket de métro. Au sortir de la guerre, cette si jeune femme, silhouette gracile, a plus de souvenirs que si elle avait 1000 ans, elle n'a pas 18 ans en 1944 et pourtant elle va incarner à la fois la mater Dolorosa et la femme fatale, autour d'elle une bibliothèque. Le mythe Gréco, c'est d'être entouré de 1000 feuilles, Sartre, Beauvoir bien sûr, mais aussi Camus, Vian. Gréco a accueilli entre ses bras l'existentialisme et l'existence, même si elle clamait, je cite, qu'il n'y avait pas plus de physique existentialiste que de coiffure en nietzschéenne ou de maquillage hegélien. Dans les années 1950, Juliette Gréco ne fait pas la mode, elle est la mode. Elle va dans un café, c'est le café de Flore. Elle dort dans un hôtel et c'est l'hôtel de la Louisiane. Elle occupe la chambre 10, Miles Davis loue la 76. Et bientôt la 10 et la 76 deviendront 86. Que Juliette Gréco pose son manteau sur la rampe de l'escalier d'un bistrot, le manteau glisse, la cave du tabou est née, c'est là que la ville danse, que dis-je, c'est là où le monde entier veut danser, je faisais ce que je voulais, disait Gréco, on me voyait danser avec Merleau-Ponty, c'est quoi ce truc-là, lâchait-elle, qui est cette fille? En ce temps-là, Saint-Germain était un lieu joyeux et grave, grave puisque la mode sait qu'elle meurt jeune, à 93 ans.